Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le premier syndicat de profs dans le secondaire appelle à la suppression des premières épreuves du bac à la mode Blanquer. Elles doivent se tenir en janvier prochain en classe de première et rien n'est prêt selon le syndicat qui a réalisé un sondage auprès des enseignants. L'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris grâce à Sophie Parmentier pour France Inter. De nouveaux détails sur le contenu de la clé USB retrouvée au bureau du tueur. Contre l'hydre islamiste, Emmanuel Macron appelle à une société de la vigilance, c'est-à-dire comment faire. Nous verrons cela avec Mathilde Dehimy. Le prix Nobel de chimie pour les inventeurs des batteries au lithium-ion. Aujourd'hui absolument partout, des téléphones portables aux pacemakers en passant par les voitures électriques. Question sur l'usine voisine de Lubrizol, près de deux semaines après l'incendie de Rouen. Elle aussi a brûlé. Qui y avait-il à l'intérieur? Mystère. Yves Blin, le président des villes Céveso.
Je ne connais pas la situation précise du voisin, mais s'il stockait des produits de l'entreprise voisine, il devait être normalement soumis aux réglementations.
Les détails tout à l'heure avec Sandy Dauphin. Un typhon menace le crunch. France-Angleterre de rugby, samedi en Coupe du Monde. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
En direct du Japon, gros coup de vent attendu sur Yokohama. Que va-t-il se passer ?
Un France-Angleterre délocalisé sans spectateurs. Bien voilà Bruno, la tendance qui se dessine pour éviter le typhon. La décision sera officialisée sans doute demain.
Vous nous raconterez ça tout à l'heure dans l'actualité. Encore Sylvie Goulard, toujours pas confirmée comme commissaire européenne. Nouvelle audition demain. Quand la droite ne veut pas se faire piquer le sujet de l'immigration par Emmanuel Macron, débat au Sénat tout à l'heure. La Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Au menu aujourd'hui.
Je reçois l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet. Ce catastrophiste prévoit l'effondrement de notre civilisation pour 2030, c'est-à-dire demain matin. Il vient nous en parler cet après-midi et vous pouvez l'interpeller dès maintenant.
Dès maintenant au 01 45 24 7000. L'émission c'est à 13h30. Avant cela, il y aura le conseil cinéma d'Eva Bétan, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, le dernier film de Christophe Honoré. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Le nouveau bac à la mode Jean-Michel Blanquer est-il prêt ? Non, répond le premier syndicat dans le secondaire. Études à l'appui. Ce nouveau bac comporte des épreuves dès le mois de janvier en classe de première. Elles doivent donc se tenir en janvier prochain. Et le SNES FSU a interrogé un millier d'enseignants et demande carrément le report de ces épreuves. Car, à en croire le syndicat, le résultat de son enquête est édifiant. Sophie Vénétité est la secrétaire générale adjointe.
C'est la grande incertitude. On est à moins de 3 mois des épreuves. On ne sait pas comment organiser ces épreuves. On a même des établissements où les réunions avec les parents d'élèves ont été reportées parce qu'on n'avait aucune réponse à leur donner sur des questions aussi simples que à quelle date on va organiser les épreuves, comment on va choisir les sujets. En fait, ça fait quelques mois qu'on nous dit le bac va être organisé localement. Et on voit se dessiner les contours d'épreuves très différentes selon les établissements. Dans un établissement, on prendra tel sujet le lundi matin. Dans tel autre établissement, on passera l'histoire et géographie le vendredi après-midi avec un autre sujet, voire même à l'intérieur d'un établissement. Vous avez 8 classes de première. On nous dit, vous avez la possibilité de faire passer la première 1, la première 2, la première 3 sur un sujet, la première 4, la première 5, la première 6 sur un autre sujet.
Donc pour vous, ça c'est une rupture d'égalité?
Ah, clairement, c'est une rupture d'égalité. Il y a des craintes de fuite de sujet, il y a des craintes de problèmes d'organisation, et globalement, ça touche quand même à un principe que nous on défend, qui est celui de l'égalité face au baccalauréat. Et là, on a une rupture totale, ce qui veut dire que finalement, quoi qu'en dise Jean-Michel Blanquer depuis quelques mois, c'est bien la mort du baccalauréat qu'il a organisé.
Sophie Vénétité chez nos confrères de France Info. Alors, une organisation pas prête et une rupture d'égalité entre candidats. Le caractère national du bac serait menacé. Que répond le ministère ? Édouard Geffray est le directeur général de l'enseignement scolaire, le numéro 2 du ministère. Réponse courte, vous allez voir, oui, les salles d'examen seront prêtes. Quant à la menace sur le caractère national du bac ?
Ce sont des épreuves qui présentent un caractère national, en ce sens qu'elles interviennent sur des sujets eux-mêmes définis nationalement. C'est une banque de sujets nationaux dans lequel les équipes pédagogiques vont aller piocher. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un principe d'anonymisation des copies.
Voilà pour cette réponse du ministère recueillie par Alexis Morel. L'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris jeudi dernier. Bonjour Sophie Parmentier. Bonjour. Un objet concentre l'attention, Sophie. Une clé USB retrouvée au bureau du tueur, informaticien au sein de la direction du renseignement de la préfecture. Sophie, le contenu de cette clé USB suscite beaucoup d'inquiétudes.
Oui, cette clé inquiète au plus haut point les policiers car elle contient, selon nos informations, plusieurs centaines de noms de
fonctionnaires de police. Des noms et des prénoms alignés les uns derrière les autres, avec souvent une adresse mail personnelle, un numéro de téléphone portable et parfois même la précision d'une affectation. Par exemple, tel policier travaille à la brigade de nuit, tel autre à la brigade accident, ou que tel autre encore est un tireur de précision. Il n'y a à notre connaissance aucune adresse de domicile sur cette liste qui reste très angoissante.
Alors toute la question, Sophie, pour les enquêteurs, c'est de savoir pourquoi le tueur de la préfecture de police avait cette liste sur une clé USB dans son bureau de la cellule informatique.
Oui, cette liste peut ressembler, selon ce qu'on en sait, à celle que les syndicats ont pour recenser leurs adhérents, mais de tels listings sont normalement d'accès très restreint. Alors la question est de savoir si Michael Harpon, le tueur de la préfecture de police, a sciemment copié une liste syndicale ou s'il en a fabriqué une avec des noms qu'il a lui-même ciblés. Et cette liste l'a-t-il transmise à l'extérieur de la préfecture de police? Question pour l'instant sans réponse. Cette liste en tout cas, se trouver à côté d'éléments de propagande de Daesh sur cette même clé USB.
Merci Sophie Parmentier. Hier, après cet attentat, il y a donc cet appel d'Emmanuel Macron à une société de la vigilance contre l'hydre islamiste. C'est à chacun d'entre nous, selon le président, d'être attentif aux comportements déviants dans notre entourage, au travail, au club de sport. Bonjour Mathilde Deymy.
Bonjour Bruno.
Alors question, comment s'y prendre? Quelle borne fixer entre vigilance et délation?
D'abord un constat simple. Après chaque attentat, le numéro vert mis en place reçoit quand quantité d'appels pour signaler des comportements estimés suspects, puis le nombre décline. Parmi ces appels, des dénonciations malveillantes. Mais il faut faire confiance au service de lutte antiterroriste qui traite ces appels pour vite faire le tri, explique Éric Poulia, co-rapporteur LREM du rapport Service public face à la radicalisation. Il faut aussi mieux former les agents pour qu'il n'y ait pas de confusion entre religion, communautarisme et radicalisation.
Par exemple, est-ce qu'un collègue qui refuse de serrer la main chrétien, c'est radicalisé? Ben non, ça en est pas un. Mais ça fait partie de tout le champ des signaux faibles qui doivent être remontés pour que, si ces signaux s'amplifient, qu'on puisse un jour écarter et protéger l'institution.
Signaler n'est pas de la délation, donc, insiste le député. Il y a des enquêtes derrière. Un signalement qui ne doit pas passer que par la voie hiérarchique. Il faut des référents au sein de chaque service public, mais aussi une plateforme pas anonyme, mais extérieure à l'entreprise.
Alors voilà des éléments déjà. Comment ça marche plus précisément? Mathilde, vous prenez l'exemple de la RATP, exemple qui n'est pas choisi au hasard. On se souvient qu'un des terroristes du Bataclan y était machiniste.
La RATP qui part de loin, mais qui avance, d'après l'autre co-rapporteur de la mission d'information, le député LR Éric Diard.
Le premier outil, c'est le criblage au recrutement. Après, suite à l'affaire du Bataclan, la direction de la RATP a mis des séminaires de formation à la prévention, à la radicalisation, sur la laïcité. Il y a un communautarisme qui est très prégnant dans la RATP. Mais le communautarisme ne signifie pas pour autant que vous allez basculer dans la radicalisation.
La RATP, comme d'autres transports publics, a encore beaucoup de progrès à faire, disent les co-rapporteurs. L'armée, la police, la gendarmerie, l'éducation nationale sont les services qui ont le plus avancé sur ces questions, contrairement aux hôpitaux publics et aux milieux sportifs.
Appel à une société de vigilance, les maires répondent présents. C'est ce que dit ce matin François Baroin, le président de l'Association des maires de France. Dans l'actualité encore, la nomination du procureur de la République financier, Jean-François Bonnart. Il succède à Éliane Houlette. Il était jusque-là procureur général Reims.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et la semaine du Nobel continue, le prix Nobel de chimie à présent. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Il est attribué à, je prends mon souffle, John Goodenough, américain, le britannique Stanley Whittingham et le japonais Akira Yoshino. Tous les trois sont les inventeurs des batteries au lithium-ion, ces batteries commercialisées en 1991 et qu'on trouve aujourd'hui partout, des pacemakers au téléphone, des ordinateurs aux batteries de voitures.
Exactement, elles représentent une révolution ces batteries. Imaginez-vous que la toute première pile, celle de M. Volta, a plus de 200 ans et le principe n'a pas évolué. Deux électrodes, une anode, une cathode. Par réaction chimique, l'anode libère des électrons qui sont attirés par la cathode. Il se crée une circulation, un courant électrique. Sulfate de cuivre, platine, nickel, dioxyde de manganèse, tous ces matériaux ont tenu jusque dans les années 70 jusqu'à ce qu'arrive le lithium, un élément ultra léger qui a l'avantage de pouvoir être, comprimé dans un petit volume. La charge électrique totale est plus importante et du coup la durée de vie de la batterie avec. Pourtant, parce que le lithium a justement tendance à libérer facilement un électron, il est riche en énergie, il faut le stabiliser. Monsieur Whittingham, le premier, a repéré son intérêt. Ensuite, Monsieur Goodenough a doublé le potentiel de cette nouvelle batterie dans la décennie suivante et Monsieur Yoshino les a rendus plus sûrs. Le grand public les a découverts il y a 30 ans. C'est donc essentiel pour stocker l'énergie issue du soleil, du vent et puis plus tard pour la généralisation des transports électriques.
Merci Sophie Bécherel. Demain, le Nobel de littérature. Deux prix seront décernés cette année. L'an dernier, il n'y avait eu aucun lauréat. L'Académie avait été empêchée par une affaire d'agression sexuelle qui touchait indirectement un des jurés. Avec Sophie Bécherel, à l'instant, nous parlions de la chimie qui améliore nos vies, la chimie qui inquiète aussi parfois. Dans la région de Rouen, les premiers résultats d'analyse sur la dioxine dans l'air après l'incendie de l'usine Lubrizol, les taux relevés sous le panache de fumée le jour même sont 4 fois plus élevés que ce qu'on constate d'habitude. C'est en particulier le cas à Préau, au nord-ouest de Rouen. Plus haut que la normale, oui, mais en dessous des seuils de toxicité, précise la ministre de la Santé. Presque 2 semaines après le feu, il y a aussi beaucoup de questions à propos de l'usine Normandie Logistique, voisine de Lubrizol. Elle aussi a brûlé, elle aussi contenait des produits chimiques. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
On n'en sait pas beaucoup plus et c'est évidemment un problème, Sandy.
Oui, alors on savait que 5000 tonnes de produits avaient brûlé chez Lubrizol et vendredi, le préfet a révélé que la société avait stocké 5000 autres tonnes chez l'entreprise voisine Normandie Logistique, également endommagée. Or, une note de la direction des risques rattachée au ministère de l'Environnement, révélée hier soir par le journal Le Monde, cette note montre que jusqu'à présent, l'État n'était pas au courant des quantités exactes stockées chez la voisine. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'en est étonnée ce matin sur France Info.
Ça, c'est clair que ça a été une surprise aussi pour l'État. Il y a une enquête administrative et une enquête judiciaire en cours. Nous verrons comment on en est arrivé à apprendre cela si tardivement.
En soi, stocker des produits réglementés dans un entrepôt voisin n'est pas interdit, mais sous certaines conditions, rappelle le député du Rhône Yves Blin. Il préside l'association Amaris qui regroupe les communes qui ont des sites Céveso seuil haut sur leur territoire.
Je ne connais pas la situation précise du voisin, mais s'il stockait des produits de l'entreprise voisine, il devait être normalement soumis aux réglementations. C'est-à-dire autorisation, mesures de sécurité pour le stockage de ces produits, plan de prévention des risques technologiques si nécessaire, c'est-à-dire s'il est avéré que les risques représentés en cas d'accident par ces produits sortaient du périmètre de l'entreprise.
Vendredi, le préfet s'est voulu rassurant en affirmant que les produits conservés chez l'entreprise voisine de Lubrizol n'étaient pas les mêmes produits que ceux stockés dans un site Céveso. Mais l'enquête administrative devra éclaircir un point crucial. Normandie Logistique était soumise à un régime réglementaire pour installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, mais au plus faible échelon. Est-ce que ce classement était assez contraignant?
Et à chaque malheur ou chaque accident, ces charognards, ces profiteurs, la répression des fraudes ouvre une enquête pour démarchage abusif, arnaque de faux démarcheurs qui se présentent chez des habitants de Seine-Maritime, soi-disant pour effectuer des prélèvements. Les services publics ne font pas de démarchage et n'ont mandaté personne pour accomplir cette tâche, surtout pas en la facturant. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Ensuite s'ouvrira le débat au Parlement. Et dans ce cadre, un amendement parlementaire présenté mardi va acter un peu plus l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Neurologue, député en marge de l'Isère, rapporteur général de la commission des affaires sociales, c'est vous qui allez défendre cet amendement qui vient, je le précise, après le feu vert de l'Agence du médicament à cette expérimentation. Alors du cannabis, Olivier Véran, pour soigner ou plutôt soulager des douleurs, dans le cadre de quelle maladie ?
Dans le cadre de maladies cancéreuses, de douleurs neuropathiques, qui sont des douleurs neurologiques qui peuvent être extrêmement violentes et difficiles à soulager. Dans le cadre également de ce qu'on appelle la spasticité pour des patients qui ont des scléroses en plaques. Enfin, des indications bien précises qui seront portées par des médecins spécialistes dans un cadre hospitalier, dans des centres experts, et qui auront eux-mêmes reçu une formation en vue de prescrire les bonnes molécules et les bons dosages entre les différentes molécules qui peuvent composer le cannabis aujourd'hui.
Il y a aujourd'hui un manque pour soulager la douleur que le cannabis va combler.
Oui, alors non seulement il y a un manque pour des patients qui ignorent qu'ils pourraient être soulagés dans un certain nombre de situations, mais il y a également un nombre impressionnant de malades qui sont en automédication, puisque ça existe déjà dans beaucoup de pays européens. D'ailleurs, il y a même un paradoxe, puisque médecin français, j'ai le droit de prescrire du cannabis aujourd'hui à mes malades, mais ils n'ont pas le droit de se fournir en France, donc ils passent la frontière, ils vont dans les pays comme les Pays-Bas en pharmacie, où on leur remet des produits dérivés du cannabis, et quand ils reviennent en France, ils peuvent se faire arrêter à la douane. D'autres ont du coup leur propre culture maison. Ce sont des malades malades, je le rappelle, qui ont des douleurs très particulières dans des cadres neurologiques notamment, ou dans des maladies cancéreuses avec des chimios, des radiothérapies qu'ils ont du mal à supporter. Et ça nous met en échec quand on est en blouse blanche face à ces malades, puisqu'on ne peut leur répondre que « je suis désolé, je comprends, mais je ne peux pas vous le prescrire ». Et à côté de ça, on prescrit de la morphine, on prescrit des antidépresseurs, on prescrit des psychotropes, on prescrit des traitements beaucoup plus lourds en termes d'effets indésirables. C'est pas un traitement miracle, hein. Ça marchera pas pour tout le monde, ça remplacera pas le paracétamol évidemment, mais c'est un traitement qui, chez un certain nombre de malades, va faire ses preuves. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans la littérature internationale.
Encore quelques questions sur le mode d'emploi. Sous quelle forme est-ce que ce sera remboursé et quand commence l'expérimentation ?
Ce sera évidemment remboursé. On prévoit une expérimentation auprès de 3000 malades France entière pendant 2 ans avec une évaluation régulière de l'expérimentation.
Et à partir du début de l'année prochaine, c'est bien ça ?
À partir du début de l'année 2020, j'espère normalement avant l'été, probablement aux alentours du printemps, et sous plusieurs formes, sous forme d'huile, sous forme de tisane et sous forme de fleurs séchées qui ne seront évidemment pas fumées mais qui seront vaporisées puisqu'on remettra également aux malades un vaporiseur.
Est-ce qu'on est sûr, dans le cas par exemple des traitements post-chimio, que le cannabis ne va pas faire plus de dégâts que de bien, Olivier Véran ?
C'est pas un traitement qui interfère avec un cancer ou avec une chimiothérapie. Mais prenez l'exemple de quelqu'un qui a un cancer avec des douleurs très fortes après une radiothérapie. Le traitement de référence aujourd'hui, c'est la morphine. La morphine, ça constipe, ça donne envie de vomir et ça coupe l'appétit. Bah, le cannabis, il donne faim, il restaure le transit et il a tendance à arrêter les vomissements. Donc, moi, vous savez, c'est pas né sous le sabot d'un cheval, cette idée. C'est que dans ma pratique de médecin au CHU de Grenoble, j'ai face à moi des malades qui me disent qu'en fait, ils tiennent bon avec leur pathologie parce qu'ils consomment en automédication des dérivés du cannabis. Certains que du CBD, le CBD c'est ce qui entraîne la relaxation musculaire et qui n'a pas d'effet psychotrope, d'autres du THC qui leur permet de tenir avec leur douleur. Et c'est ces malades finalement qui sont d'ailleurs des patients experts, hein, qui savent mieux que nous aujourd'hui ce qui leur réussit ou ce qui ne leur réussit pas.
Comment cadre-t-on l'expérimentation ? Comment s'assure-t-on que les malades ne deviennent pas accros ou dépendants ?
De la même façon que quand on prescrit aujourd'hui très librement et facilement de la codéine ou des dérivés d'opiacés comme la morphine, l'objet n'est évidemment pas de créer des addictions. On s'adresse là à des patients qui de toute façon ont déjà une ordonnance extrêmement lourde avec des traitements aux effets indésirables très nombreux.
Et question idiote, il vient d'où le cannabis ? On l'achète à qui ?
Ah, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de filière française suffisamment stabilisée pour procurer le cannabis dans le cadre de l'expérimentation. Elle va se mettre en place, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de territoires qui sont déjà candidats. Par contre, il y a beaucoup de pays qui nous entourent qui ont déjà des productions safe, régulées par les autorités sanitaires des pays concernés.
Olivier Véran, un mot plus largement sur le projet de budget de la Sécu, le volet santé notamment. Il prévoit un objectif de croissance des dépenses maladie d'un peu plus de 2%. La progression naturelle des dépenses, c'est 4,5%. Ça fait un écart de plus de 4 milliards d'euros, alors que l'hôpital, je ne vous l'apprends pas, est déjà en feu. Plus 2% de dépenses seulement. On ne peut pas pousser le curseur un peu plus loin ?
S'agissant du budget de l'hôpital en particulier, la croissance est effectivement prévue à 2,1% et j'aimerais bien qu'on puisse pousser le curseur plus loin, comme vous le dites. Donc, on a une réflexion au Parlement, au sein du groupe majoritaire notamment, avec un dialogue qui est tout à fait correct avec le gouvernement pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions de financement.
Ça pourrait évoluer pendant le débat, donc.
J'espère. Pour le reste, c'est l'exercice annuel difficile qu'on appelle la maîtrise médicalisée, c'est-à-dire qu'on fait des économies sur les médicaments, on fait des économies sur les transports médicalisés et surtout, par des réformes structurelles profondes, on réorganise des soins entre la ville et l'hôpital pour être plus efficace.
Merci Olivier Véran d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Le député Olivier Véran, duplex de l'Assemblée nationale, entretien enregistré il y a un peu plus d'une heure. Merci à Thibault Nassim Ben qui a permis d'établir la liaison. Dans le domaine de la santé encore, la baisse du nombre de contaminations par le virus du sida en France baisse de 7% entre 2017 et 2018. Et nous allons tout de suite en Allemagne retrouver notre correspondant Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Pour cette information qui nous est parvenue pendant le journal, une tuerie à Halle dans l'est de l'Allemagne, Ludovic.
Oui, c'est une grande ville, hein, de 230 000 habitants à 2 heures de route environ au sud de Berlin. C'est une fusillade qui aurait fait au moins 2 morts pour l'instant dans ce quartier légèrement au nord du centre-ville de Halle, le quartier de Paulus. Cette fusillade s'est produite devant la synagogue, dans la rue. On parle d'une femme abattue, de plusieurs autres personnes blessées et d'un ou de plusieurs auteurs de cette fusillade, un ou des tireurs qui seraient en fuite en en direction de la grande ville voisine du land de Saxe, la ville de Leipzig. C'est une fusillade qui s'est produite un tout petit peu avant 13h. La police locale a immédiatement fait savoir sur Twitter, sur son fil Twitter, qu'il fallait absolument rester chez soi, ou si vous étiez à l'extérieur, eh bien trouver un abri. C'est on imagine des scènes un petit peu surprenantes comme ça dans cette ville de Halle en plein milieu de journée. C'est selon le quotidien Bild aussi cette dernière information, toujours donc liée à cette fusillade qui se serait produite en face de la synagogue, une grenade à main aurait également été lancée sur le cimetière juif à proximité.
Merci Ludovic, et on rappelle donc ce bilan provisoire, deux morts et un ou plusieurs tireurs en fuite à Halle en Allemagne. Merci Ludovic Piétenu. L'actualité européenne, c'est aussi un mois et demi après avoir été choisi par l'Élysée pour représenter la France à la Commission de Bruxelles. Sylvie Goulard, qui n'est toujours pas sûre d'être confirmée par les Européens, forcément un motif d'embarras pour Emmanuel Macron. La Française a deux boulets au pied, l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem, son ex-parti au Parlement européen, et l'argent qu'elle a touché de la part d'un milliardaire germano-américain entre 2013 et 2016, alors qu'elle siégeait à Strasbourg. Y avait-il conflit d'intérêts? Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Sylvie Goulard a été entendue, Angélique, une première fois par le Parlement. Elle le sera sans doute une seconde fois demain.
Oui, demain ou lundi, il y a encore un doute, mais elle sera entendue une seconde fois au jeu du stop ou encore après de longs échanges entre les groupes politiques. Les 58 pages d'explications écrites fournies par la candidate après sa première audition n'ont donc pas convaincu. Elle a certes fait un effort de clarté sur son programme, soulignent certains élus, mais son refus de s'engager clairement à démissionner en cas de mise en examen dans l'affaire du MoDem en fait enrager plus d'un, chez les Allemands et les Nordiques en particulier, confie une source bien informée, dans la mesure où pour la même affaire, elle avait démissionné très vite en 2017 de son poste de ministre des Armées, avant même d'être auditionné par la justice française. Question de culture, car du côté des socialistes italiens, poursuit cette source, on a entendu ce matin un élu dire que si tous les eurodéputés mis en examen devaient démissionner, le Parlement aurait du souci à se faire. Division donc chez les socialistes. La droite et les Verts voulaient en revanche cette seconde audition. Audition à l'issue de laquelle il y aura un éventuel vote à la majorité simple plutôt qu'aux deux tiers, ce qui devrait a priori, restons néanmoins prudents, mais assurer à Sylvie Goulard son ticket pour la Commission. Gardera-t-elle en revanche la totalité de son énorme portefeuille, le marché intérieur, l'industrie, la défense, une partie du numérique? Pas sûr que le Parlement fasse ce cadeau au président Macron, jugé ici trop gourmand par certains. Une partie de ses attributions pourrait donc bien atterrir dans la corbeille d'un autre groupe politique que le sien.
Merci Angélique. Président Macron qui recevra la chancelière Merkel dimanche à l'Élysée. Il sera certainement question du Brexit. Les derniers mots du négociateur européen ce matin. Brexit, un accord, et il sera très difficile d'y arriver, mais c'est encore possible, dit Michel Barnier. À Paris, après l'Assemblée nationale lundi, le Sénat débat à son tour, sans vote ni décision, du sujet de l'immigration. C'est à 16h30. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a pris une option sur le sujet depuis la rentrée. Pas de tabou, il faut parler à tout le monde, ne pas être une majorité bourgeoise qui ferme les yeux. Il a un peu pris de court la droite, qui est majoritaire au Sénat et qui entend bien reprendre la main cet après-midi, Cécilia Arbona.
S'il faut un premier de cordée pour limiter l'immigration massive, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, veut bien être celui-là.
On se saisit du sujet de l'immigration, pourquoi? Parce qu'il y a un échec qu'Emmanuel Macron doit absolument camoufler. Alors que dans tous les grands pays européens, le droit d'asile baisse, nous, il y a une explosion, plus 22%.
Le sénateur de Vendée rappelle qu'il a déjà été source d'inspiration pour le gouvernement, englué dans la crise des gilets jaunes et dépassé, selon lui, par la violence de rue.
Ça leur est arrivé effectivement sur la loi anticasseur que j'avais proposé, fait voter au Sénat. La loi anticasseur, c'est clairement du copier-coller, bien sûr. Qu'est-ce qu'une bonne politique de maîtrise de l'immigration? Ce sont des frontières nationales qu'il faut maintenir. Il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées pour resserrer, par exemple, le regroupement familial, pour supprimer des aides sociales à des irréguliers, exemple demi-tarif de transport commun en Île-de-France. Chaque année, nous proposons de réformer l'aide médicale d'État pour en faire une véritable aide médicale d'urgence, en resserrant le panier de soins, notamment pour les maladies infectieuses et contagieuses. À chaque fois, le gouvernement nous dit non.
Les élus républicains du Sénat espèrent que l'exécutif osera réinterpréter leur partition.
Et le débat, c'est donc cet après-midi à 16h30. Le conseil cinéma d'Eva Bétan, comme chaque mercredi dans ce journal de 13h. Bonjour Eva.
Bonjour.
Cette semaine, Chambre 212 de Christophe Honoré, soit un couple Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, qui se disputent. Elle quitte le domicile conjugal, elle va à l'hôtel.
On dirait un rapport de police, tel que vous me dites, mais c'est pas du tout ça. Cette chambre d'hôtel, elle est juste en face de chez elle. Et au moment où elle traverse, la neige se met à tomber. Et l'esprit du film est là, et c'est une idée
cinéma
formidable. Cinoche. Parce que voir sa vie de l'extérieur, au sens propre du terme, de la fenêtre de l'hôtel, elle voit son appartement. Ça part d'une chose effectivement qui est banale, l'usure du temps, un couple au bout de 20 ans, un adultère. Bon, là c'est la femme qui trompe, et elle va donc réfléchir. Ce qu'il y a de formidable avec Honoré dans ce film, c'est qu'il fait du vrai avec du faux, avec de l'artifice. Il dit, venez, venez jouer avec moi comme quand on joue à la marchande. Alors on va dire que moi je suis l'acheteur et toi tu es la vendeuse et on est d'accord. Venez puisque vous acceptez de croire. Et du coup, il n'a pas besoin de beaucoup d'argent dans Gemini Man d'Angli. Pour que Will Smith soit plus jeune, ils ont dépensé beaucoup d'argent en effets spéciaux.
Là, c'est pas la peine.
Il dit, voilà, Vincent Lacoste, eh bien, c'est Benjamin Biolay qui était jeune. Et bien sûr, puisqu'on était d'accord, puisqu'elle pense au début de leur histoire d'amour, et c'est du cinéma enchanté.
J'ai une sorte de contrat, en fait, avec les spectateurs. C'est-à-dire que je veux qu'ils n'oublient jamais à la fois qu'ils soient dans une salle de cinéma, et que donc, ce qui va apparaître à l'écran est une manière, non pas de les consoler de la vie, mais de leur donner des vitamines, ou de leur permettre, comme ça, de découvrir leur vie à travers la fiction. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu, en fait, assez urgent et essentiel du cinéma aujourd'hui.
On se doutait bien que c'était pas juste de la virtuosité. Sans ça, le personnage de Benjamin Biolay, en mari trompé qui tourne comme un lion chez lui avec un short pourri et des chaussettes, il serait pas aussi beau, il serait pas un personnage magnifique. Sans ça, il y aurait pas un fond de tristesse derrière la comédie.
C'est pour mettre le spectateur en état de confiance, pour qu'il puisse entendre des fois des choses plus secrètes, mystérieuses et qui sont même à peine dites par le film. Tous les films ont un cœur secret. Moi, je sais très bien où il est situé, ce cœur.
Vous pensez quand même pas que je vais vous le dire, mais peut-être, peut-être que c'est un grand film d'amour.
Bon, eh bien, on ira voir ça au cinéma cette semaine également. Joker, l'ennemi de Batman, incarné par Joaquin Phoenix, dans la catégorie film d'animation Au pays des ours carrés, et puis toute autre chose pour Sama, histoire d'un bébé lors du siège d'Alep en Syrie. Le sport et les Bleus redoutaient déjà de prendre un énorme vent, une grosse défaite samedi en Coupe du Monde de rugby face à l'Angleterre. Eh bien, l'expression doit être prise au pied de la lettre. Le match est programmé à 10h15 à Yokohama et Jérôme Val, la météo japonaise, redoute le passage d'un typhon. Le match devra se tenir ailleurs.
Oui, les organisateurs n'ont pris vraiment aucun risque. La décision sera officialisée demain, mais ce France-Angleterre n'aura pas lieu à Yokohama, au sud de Tokyo, dans le plus grand stade de la compétition. Il sera délocalisé à Oita, dans l'île du Sud, où le 15 de France se trouve déjà et où aura lieu son quart de finale, région qui sera épargnée par le typhon. Mais la grande surprise, Bruno, c'est que ce crunch pourrait se dérouler à huis clos. Impossible, en effet, avec l'annulation des transports, d'organiser le transfert des supporters qui avaient pourtant réservé leurs billets depuis des mois. Un autre match devrait subir le même sort, le décisif Japon-Écosse, qui se disputerait lui aussi sans public. Alors en 24 heures, Agibis, hein, c'est le nom de ce 19e typhon, est passé de simple tempête tropicale à super typhon de catégorie 5, la plus élevée. Une accélération de sa puissance que l'on n'avait pas observée depuis 36 ans dans la région, avec des vents à plus de 250 km/h. On annonce pour ce week-end des vagues de 15 mètres et des pluies abondantes qui correspondraient à un mois et demi de précipitations. On comprend donc que les organisateurs n'aient pris aucun risque pour un simple match de rugby.
En effet, merci Jérôme Val en direct du Japon. Quel temps en France ?
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Sébastien Léas.
Cet après-midi, ce sont les nuages qui l'emportent sur la majeure partie du pays. Une poche de belles éclaircies se dessine entre la moyenne vallée du Rhône et le Bas-Languedoc. Le soleil fait aussi de belles apparitions sur l'est et le nord de la Corse, ainsi que sur la côte atlantique et l'Aquitaine. En revanche, sur les Alpes du Nord, l'après-midi reste gris et pluvieux, avec un peu de neige au-dessus de 2200 mètres d'altitude. Sur une large moitié nord, entre la Bretagne, les Hauts-de-France et le Poitou, jusqu'en Auvergne et au quart nord-est, ce sont des averses localement orageuses qui circulent. Ces averses sont plus fréquentes près de la Manche. Les températures de cet après-midi sont comprises entre 13 et 20 degrés en général, avec 19 à 24 degrés autour de la Méditerranée et jusqu'à 26 degrés pour la Corse.